Agathe Cagé, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à la librairie Les Volcans. Alors, pour vous présenter très brièvement, vous êtes docteur en sciences politiques, diplômée de l'École normale supérieure, de l'ENA. Vous avez été directrice adjointe, l'ENA aussi, de cabinet au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche. Vous avez travaillé aux côtés de Benoît Hamon. Et vous trouvez quand même le temps d'écrire. Et vous venez aujourd'hui pour nous présenter votre dernier ouvrage qui s'intitule « Classe figée, comprendre la France empêchée » paru chez Flammarion. Alors, on en parlait à l'instant, vous avez voulu dans ce livre faire un constat de toutes ces vies à l'arrêt, aux perspectives rétrécies, qui sont une immense majorité de la population française. Hein. Vous allez peut-être vous y reconnaître dans la description de ces classes figées, face à une minorité resserrée. Des premiers de cordée, hein, pour reprendre l'expression que vous utilisez dans ce livre. Et ces classes figées, en fait, sont plus pertinentes pour comprendre un peu la photo de la France en 2024 que ce concept de classe moyenne qui était plutôt utilisé au temps des Trente Glorieuses et qui symbolisait des personnes qui avaient confiance en l'avenir, alors qu'aujourd'hui, cet avenir, il rime plus avec pire qu'avec désir. Ces classes moyennes, si on s'y arrête un instant, à Agathe Cagé, c'était une spécificité française pour ausculter la société. Et quand est-ce que finalement le modèle était plus pertinent et celui de classe figée est beaucoup plus prégnant pour l'analyse de la société?
Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre accueil ce soir. On a longtemps dit, et ça a été un slogan politique d'ailleurs, que la France est une société de classe moyenne, surtout pour désigner la période des 30 Glorieuses. Ça a été théorisé politiquement par Valéry Giscard d'Estaing, ça a été théorisé académiquement par Mendras dans la Seconde Révolution française, avec cette idée que la France était un pays qu'on pouvait caractériser par sa modération politique et une sorte d'uniformité de la situation économique. La France des classes moyennes, elle reposait sur une double promesse. Une promesse de mobilité à l'intérieur d'une vie, c'est-à-dire la capacité à rattraper le niveau de vie des personnes qui économiquement se situaient au-dessus de vous, la possibilité pour un ouvrier de rattraper au fur et à mesure le niveau de vie d'un cadre. Le niveau de vie d'un cadre continue à augmenter, mais on promettait à l'ouvrier de pouvoir accéder à un certain nombre de biens de consommation, de loisirs, etc. Donc de pouvoir se projeter dans des modalités de vie différentes sur une génération. Et la promesse de la société des classes moyennes, elle reposait également sur une promesse de mobilité intergénérationnelle, c'est-à-dire sur la promesse que vos enfants allaient vivre mieux que vous ne viviez vous-même. Cette promesse-là, elle correspondait politiquement à l'idée que les classes moyennes étaient quelque chose qu'il fallait promouvoir, parce que c'était une partie assez large de la population française qui allait voter dans le sens d'une forme de modération. La classe moyenne, comme on lui promettait à la fois de pouvoir progresser tout au long de sa vie et qu'on promettait en plus à ses enfants un avenir différent et meilleur de celui qu'on avait soi-même, n'avait pas intérêt à une forme de radicalité ni à vouloir faire la révolution. Donc ça permettait finalement de s'assurer d'une sorte de vote modéré centriste, d'où l'intérêt notamment porté par Valéry Giscard d'Estaing à cette idée de classe moyenne. La société française aujourd'hui, et pour moi le point de rupture, se situe sans doute autour de la crise financière de 2008. Elle ne correspond plus à la réalité d'une France des classes moyennes. D'abord parce que la double promesse de mobilité n'existe plus. La mobilité ascendante, elle n'existe plus sur le temps d'un parcours de vie. Aujourd'hui, un ouvrier, s'il veut rattraper le niveau de vie d'un cadre, il lui faut 100 ans. Donc il ne peut pas le faire sur une vie. Il ne peut même pas espérer le faire sur 2 générations, il ne peut même pas espérer le faire sur 3 générations. Et aujourd'hui, en termes de mobilité intergénérationnelle, la promesse n'existe plus non plus. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas de promesse de mobilité générationnelle ascendante, mais en plus, on voit se développer de plus en plus des phénomènes de mobilité générationnelle descendante. Et cette promesse-là, elle a disparu, cette double promesse de mobilité a disparu, sans qu'on exprime aux Français le fait que cette société des classes moyennes, qui était une société positive, une société des 30 glorieuses, ben, dans les faits, n'existait plus. Et politiquement, on continue à avoir des discours qui parlent de la France des classes moyennes et à penser les discours autour d'une France des classes moyennes qui ne correspondent pas à la réalité. Et la problématique, c'est que quand on a un discours politique qui ne correspond pas à la réalité, souvent les réponses qu'on apporte ne correspondent pas aux besoins de la société. Pourquoi politiquement le discours autour de la société des classes moyennes reste intéressant? D'abord parce que c'est une forme de pari statistique. On se dit que statistiquement, les classes moyennes existeront toujours, hein, de la même manière que statistiquement, dans toutes les sociétés, il y aura toujours 10% des plus riches et 10% des plus pauvres. Une réalité statistique ne dit rien de ce qu'est derrière une réalité sociale. C'est pas parce que vous entrez dans des catégories qui peuvent être définies économiquement et statistiquement par l'INSEE que derrière, il y a un commun qui se dessine. Mais politiquement, on se dit qu'on peut faire le pari qu'on va parler au plus grand nombre, notamment parce que les Français, quand on les interroge, continuent à s'auto-définir comme faisant partie des classes moyennes. Pourquoi ? Parce qu'ils voient bien qu'ils font pas partie des catégories supérieures et qu'en même temps, ne pas se définir comme faisant partie des classes moyennes, mais se définir comme faisant partie de catégories populaires, ça peut être vécu comme une forme de déclassement. Donc dans l'autodéfinition, les Français continuent à se référer aux classes moyennes. Et politiquement, on continue à avoir un discours qui est très centré autour d'une France qui serait encore une France des classes moyennes, parce que ça permet de construire le discours politique autour d'oppositions faciles. Classe moyenne, en insinuant derrière que c'est classe moyenne courageuse et qui travaille et qui demande pas trop à l'État, et donc on oppose des catégories sociales qui refuseraient de travailler et qui seraient dans une demande d'assistanat, de la même manière qu'on essaie de construire des oppositions un peu faciles entre les ruraux, les périurbains, les urbains. On essaie de segmenter comme ça en forme de clientèle politique pour ne pas voir ce que j'essaie de dessiner, qui est une problématique commune qui est partagée, hein, ce que j'appelle le sentiment d'empêchement et ce que j'appelle la France des classes figées, hein, qui déplace totalement la frontière entre les oppositions traditionnelles.
Alors, vous parliez à l'époque des classes moyennes de mobilité sociale, où on espérait grimper dans la hiérarchie sociale, et aujourd'hui, dans ces classes figées empêchées, elle est liée à l'impossibilité d'avoir une mobilité parfois géographique, avec des gens qui passent beaucoup de mois de leur vie à attendre, que ce soit sur des quais de RER, que ce soit dans des emplois précaires, et des étudiants qui voient aussi leur avenir un petit peu assombri et qu'on empêche de rêver parce que, ben, tout bonnement, il n'y a pas d'université où ils sont dépendants de transports qui les empêchent aussi de poursuivre des études rêvées. Donc c'est assez terrible aussi, ça, ce constat.
On est la société française aujourd'hui, elle souffre d'un double déterminisme, qui est un déterminisme social et qui est un déterminisme géographique. Ça, on le voit dès le moment de l'école, et c'est ça qui est assez terrible. On regarde beaucoup autour des évaluations qui sont faites de l'école française par rapport aux évaluations internationales, la situation des élèves français en termes de niveau par rapport à l'apprentissage des mathématiques, par rapport à l'apprentissage du français, c'est des questions importantes. Ce dont on parle moins, et c'est ce qui fait la spécificité de l'école française, c'est que la France est la quasi-championne du monde, en tout cas dans les pays qui partageraient ces caractéristiques économiques et sociales, la France est la quasi-championne du monde du déterminisme scolaire. Ce que ça veut dire, c'est que le destin scolaire des enfants est en grande partie fixé avant même qu'ils ne rentrent à l'école maternelle. Parce que le poids des caractéristiques socio-économiques des parents est excessif dans le parcours scolaire des enfants. En fonction du fait que votre mère ait ou n'ait pas un diplôme du supérieur, votre probabilité d'accéder à un baccalauréat général et technologique sans redoubler varie de 1 à 3. Et ces inégalités-là, l'école française, telle qu'elle est structurée aujourd'hui, elle n'arrive pas à les réparer et elle n'arrive pas à revenir sur ce phénomène du déterminisme. Et ce phénomène du déterminisme, il est à la fois social, mais il est également géographique, c'est-à-dire que les choix d'orientation des jeunes, à niveau scolaire égal, va être fortement déterminé en fonction du lieu où ils grandissent et du lieu où ils habitent. Et la problématique derrière ça, c'est pas le fait que les jeunes pourraient choisir ou non d'être mobiles, de se construire un avenir d'études ou un avenir professionnel là où ils ont grandi ou ailleurs, dans une autre ville ou dans un autre pays. Ce qui est problématique, c'est le fait que les jeunes n'ont pas le choix par rapport à l'horizon des ambitions qui peuvent s'ouvrir, parce que le poids des déterminismes devient plus fort que la possibilité de choisir. C'est pour ça que d'une certaine manière, on peut dire qu'en France, les gens ont de moins en moins d'avenir, ils ont de plus en plus des destins, mais vraiment les destins au sens des tragédies grecques. C'est-à-dire que vous avez beau vous agiter dans tous les sens, vous avez beau essayer de contrer les effets de ce qui vous arrive, finalement, vous allez arriver au point qui avait été déterminé avant votre naissance, malgré tous vos efforts individuels. C'est la guerre de droit n'aura pas lieu et ces mécaniques qui s'imposent aux individus. Or, une société, pour regagner une forme de sérénité et pour regagner une forme de positivité, a besoin d'être une société au sein de laquelle chacun peut se construire un avenir, c'est-à-dire se déterminer dans ses envies, ses ambitions, sa capacité à se projeter et non pas se retrouver une forme de destin. Or aujourd'hui, on a des Français qui se sentent confrontés à des murs, non seulement pour eux-mêmes, mais plus encore pour l'avenir de leur enfant, ce qui crée ce sentiment d'empêchement extrêmement fort.
Pour, si on s'arrête encore un instant sur l'éducation nationale, vous avez même l'image des ordres de l'ancien régime pour décrire les grands lycées, la noblesse, les lycées professionnels, le tiers état, et les établissements privés pour le clergé.
Cette image des trois ordres, c'est une image que j'emprunte à Jean-Paul Delahaye, qui a notamment écrit un ouvrage que je vous conseille vraiment, qui s'appelle « L'exception consolante », une graine de pauvre dans les rouages de la machine. Et Jean-Paul Delahaye, c'est quelqu'un qui est issu d'un milieu extrêmement modeste et qui a fini sa carrière comme directeur général de l'enseignement scolaire et qui a un discours extrêmement intéressant, c'est-à-dire qui dit la difficulté du système éducatif français, c'est qu'il se sert des quelques exceptions, dont moi, pour expliquer qu'il n'y a pas de difficulté, qu'il n'y a pas de déterminisme social, parce que si chez moi, exception, j'ai réussi, ça voudrait dire que chaque enfant pourrait réussir. Et il dit, attention, moi je suis une exception consolante, mais si je sers de justification au système, alors c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que normalement je ne devrais pas être une exception. On devrait avoir un système scolaire qui permette à chacun et à chacune de pouvoir réussir. Pourquoi il prend et je lui emprunte ces images des trois ordres? C'est qu'on a un enjeu qui aujourd'hui est extrêmement fort de l'orientation vers le lycée et notamment de l'orientation soit vers les filières professionnelles, soit vers les filières générales. Le défaut de notre système d'orientation aujourd'hui, c'est que l'orientation vers les filières professionnelles est une forme de choix par défaut qu'on impose à certains élèves, alors que ça pourrait être des choix positifs qui serait fait par l'ensemble des élèves intéressés par accéder à ces voies. Et donc c'est des choix par défaut qu'on impose à certains élèves, en partie du fait de leur origine sociale et professionnelle. C'est-à-dire qu'on a des différences, ça a été mesuré à la fin de la troisième, d'orientation extrêmement marquées à niveau scolaire équivalent entre les élèves en fonction des catégories socio-professionnelles de leur famille. Donc c'est pas vos résultats scolaires qui sont déterminants dans les choix d'orientation qui sont faits. Ce qui est déterminant dans les choix d'orientation qui sont faits, c'est les moyens socio-économiques de votre famille. Et ce qui fait qu'on a un lycée professionnel, qui est un lycée professionnel qui est extrêmement dévalorisé en termes d'image, et qui en plus aujourd'hui est dévalorisé en termes de moyens. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus en train de supprimer les enseignements, les temps dédiés aux enseignements généraux, notamment aux lettres, à l'histoire, à la philosophie, dans l'enseignement professionnel, alors qu'on sait très bien que ce sont des enseignements essentiels pour des lycéens qui ont vocation soit en partie à poursuivre des études supérieures pour une partie d'entre eux, soit à pouvoir reprendre des études plus tard dans leur parcours professionnel. Et face à ça, on a une orientation en lycée général qui est une orientation qu'on fait pas en interrogeant véritablement les élèves sur ce que serait leur envie ou leur ambition, mais parce que il y aurait les voies à privilégier et les voies qui seraient des voies de garage. Et ce qui est problématique aujourd'hui, ce que j'essaie de souligner dans le livre avec la dernière réforme du lycée, c'est qu'on avait depuis 1992 un système qui avait ses limites, qui était le système au lycée général avec les filières littéraires, les filières économiques et sociales et les filières scientifiques. C'était un système qui avait ses limites, mais c'était un système qui avait le mérite, au bout d'une trentaine d'années d'existence, d'être à peu près maîtrisé par l'ensemble des familles qui commençaient à avoir une certaine connaissance, même les familles les plus éloignées du système scolaire, de ce que pouvait ouvrir telle ou telle filière du lycée général. Avec la réforme du lycée général, on a dit, on donne aux élèves, aux lycéens, a priori, la possibilité de choisir, comme ils veulent, des triplettes, puis des doublettes d'options. On leur offre cette possibilité-là, et on leur dit, vous faites le choix qui vous convient le mieux, et de toute façon, vous pourrez ensuite aller dans n'importe quelle filière de l'enseignement supérieur. D'abord, on n'a pas permis aux lycéens de faire le choix des triplettes et des doublettes qui leur convenaient le mieux, parce que de fait, il y a certains établissements qui n'ont pas proposé certaines options, et il y a d'autres établissements qui proposaient toutes les options. Donc, vous pouviez choisir, mais si vous étiez dans tel ou tel établissement, si vous étiez dans tel autre établissement, il y a des départements qui ne proposaient pas du tout d'options. Enfin, pas du tout certaines options. Et on disait aux lycéens, ah, mais cette option-là, tu pourras la suivre à distance dans un autre département. Vous voyez, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Et tout d'un coup, on a dit à l'entrée dans l'enseignement supérieur, avec Parcoursup, aux lycéens, ah oui, mais c'est vraiment dommage parce que tu as choisi cette doublette-là, sciences politiques mathématiques, mais pour rentrer dans telle licence de mathématiques, finalement, on ne va pas te permettre de le faire parce que ce choix qu'on t'a donné, tu l'as mal fait. Et ça correspond pas à ce que tu aurais dû faire. C'est-à-dire que la problématique, c'est qu'on a remis de la complexité et qu'on a remis d'une certaine manière un degré de technicité très peu maîtrisé sur les choix qu'on laissait faire aux lycéens. Et si tout d'un coup, ceux qui ne maîtrisaient pas ces choix n'avaient pas fait les bons choix, on les a confrontés à leur... liberté de choisir a priori pour leur dire « Ah, mais tu t'es planté dans les choix d'orientation que tu as pu faire ». Et on le voit de manière très marquée et très concrète sur les choix d'orientation vers les mathématiques. C'est-à-dire avec cette réforme, tout d'un coup, les filles n'ont plus choisi les mathématiques, ils n'ont plus choisi l'option mathématique. De manière très claire, qu'on a 10 points de décrochage dans le choix que font les filles vers les filières scientifiques. Et tout d'un coup, on leur dit « Ah, mesdames, c'est embêtant parce que les métiers d'avenir, c'est les métiers qui nécessitent d'une certaine manière la maîtrise des mathématiques, parce que ça nécessite la maîtrise des algorithmes. Et donc, si vous ne maîtrisez pas ça, tous les métiers du futur qui nécessiteront en partie les mathématiques, vous ne les maîtriserez pas. Ah, c'est embêtant, vous n'avez pas fait ce choix. Mais c'est dommage qu'on ne vous ait pas donné les codes, les clés pour décoder le choix que vous pouvez faire. Et si vous n'avez pas fait ce choix, eh ben, toutes ces portes-là devant vous, elles sont fermées. C'est là où je parle à la fois d'une certaine hiérarchie aristocratique, encore, ce qui est vraiment problématique de notre système éducatif, qui est doublé par le problème qu'on a un système éducatif qui s'est surcodé, et on laisse les lycéens confrontés à une a priori liberté de choix, alors qu'en réalité on ne leur donne pas les clés pour ouvrir les portes qui seraient tous en droit de demander de pouvoir ouvrir.
Et en même temps, avec des conditions d'enseignement qui sont dégradées, on avait reçu en novembre dernier William Lafleur qui a évoqué un petit peu tout ce sujet. Et ça, c'est pas simplement pour l'éducation nationale, c'est valable pour tous les services publics, hein, que ce soit dans la santé, dans la justice, dans la police, dans les armées. Vous citez différents exemples, et une phrase de Cynthia Fleury que vous reprenez: les services publics en mode dégradé font mal aux individus comme ils font mal aux institutions.
Il y a quelque chose qui est très marquant autour des services publics. Aujourd'hui, c'est le sentiment d'empêchement qu'expriment les agents publics. Les agents publics disent non seulement on ne peut plus bien faire, on ne peut plus bien exercer, on ne peut plus exercer dans des conditions qui correspondent à la manière dont on souhaiterait exercer, c'est-à-dire on ne peut plus exercer de manière éthique. Et ils vont même plus loin, ils disent on exerce dans des conditions qui peuvent être des conditions qui sont dégradantes, y compris par rapport aux personnes qui reçoivent les services publics. Les mots de impossibilité d'exercer de manière éthique, impossibilité d'exercer de manière digne, impossibilité d'exercer dans des bonnes conditions, on les retrouve à la fois dans la bouche des professionnels de la santé, des professionnels de l'éducation, des professionnels de la justice et également des professionnels de la sécurité. Dans la bouche des professionnels de la santé, on a vu les mouvements très forts à la fois des aides-soignants, des médecins, des infirmiers à l'hôpital public qui ont dit attention, la manière dont aujourd'hui on est obligé d'exercer notre métier nous conduit parfois, je reprends leurs mots, à être maltraitant par rapport aux patients. Dans le livre, je reprends véritablement les paroles qui sont celles de certains infirmiers, certains médecins, y compris certains patients, qui disent aujourd'hui les obligations qui s'imposent sur nous, soit de déprogrammation des opérations, soit de réduction du temps qu'on peut consacrer aux patients, nous imposent de travailler dans des conditions telles que certains d'entre eux préfèrent quitter la profession plutôt que d'exercer dans ces conditions. Dans le domaine de l'éducation nationale, on a eu un drame très fort avec le suicide d'une directrice d'école, Madame Renon, qui a laissé une lettre, et qui s'est suicidée au sein de son établissement, qui a laissé une lettre en disant « Je suis une directrice d'école épuisée parce que les conditions d'exercice qu'on m'impose ne me permettent plus d'exercer tel que je devrais normalement pouvoir exercer et rendre le service public de l'éducation. Ce qui est un enjeu en termes de moyens financiers et d'investissements mis dans ces services publics, ce qui est aussi un enjeu en termes de considération qui est portée aux agents publics. Dans le secteur éducatif, il y a un double problème de déconsidération. Il y a un problème de déconsidération financière de nos enseignants, c'est-à-dire que les enseignants français sont sous-payés par rapport aux enseignants européens. La différence entre un enseignant de l'école élémentaire française et un enseignant d'école élémentaire allemande, c'est 1x5 en termes de salaire. Et c'est pas une question de temps de travail, implication, etc. C'est pas du tout une question de tout ça. Toutes les comparaisons internationales l'ont regardé. Les enseignants français travaillent autant que leurs voisins européens, si vous regardez la globalité de leur temps de travail, seulement ils sont sous-payés par rapport à leurs voisins européens, des considérations financières qui se doublent ou qui se concrétisent, je ne sais pas comment le dire, par une perte massive de pouvoir d'achat. La perte de pouvoir d'achat des enseignants en 20 ans, c'est 25%. C'est-à-dire que sur une demi-carrière, vous avez perdu un quart de votre pouvoir d'achat quand vous êtes enseignant. sachant que on est aujourd'hui, peut-être on y reviendra dans une économie française où les personnes ont déjà un tiers de leurs dépenses qui sont contraintes, sur lesquelles elles n'ont pas de marge de manœuvre, que vous perdez un quart de votre pouvoir d'achat là-dessus. C'est quand même des phénomènes considérables. Il y a peu de professions qui accepteraient de perdre un quart de leur pouvoir d'achat en une demi-carrière. Et puis, il y a un problème de déconsidération sociale qui est extrêmement forte, qui est peut-être le problème majeur par rapport aux enseignants. C'est-à-dire qu'il y a un discours public récurrent, extrêmement négatif, porté sur l'école, et notamment porté sur l'école publique. Dans le livre, parce que c'était... avant le court passage d'Amélie Oudéa-Castéra au ministère de l'Éducation nationale, je cite Jean-Michel Blanquer, un de ses prédécesseurs, qui, en sortie du Covid, pour pas assumer le fait qu'il y avait des livrets qui étaient donnés aux enseignants, enfin d'abord fournis à la presse et ensuite donnés aux enseignants sur la manière de gérer le retour des enfants à l'école, s'est mis à parler de l'absentéisme des enseignants, qui ne correspondait à aucune réalité, mais parce qu'il fallait cibler les enseignants pour pouvoir cibler les dysfonctionnements de l'école publique. Bon, là, on a vu à nouveau une ministre pour justifier une situation privée qu'elle aurait pu choisir de pas justifier. Cibler nommément, on avait franchi un cap quand même, cibler nommément, enfin quasi nommément des enseignants sur un manque d'engagement de leur part. Il y a une forme de déconsidération sociale de l'école publique qui est extrêmement forte. Et cette déconsidération sociale de l'école publique, elle est d'autant plus problématique que pour lutter contre le déterminisme social dont je parlais tout à l'heure, on a besoin de recréer les conditions de la mixité scolaire et de la mixité sociale, et qu'il n'y a que l'école publique qui prend en charge la mixité sociale et la mixité scolaire. Sauf que si on ne redonne pas de la considération publique, politique dans les discours à l'école publique, des moyens et de la revalorisation financière aux enseignants, on n'arrivera pas à recréer cette dynamique positive-là.
Et en plus, des enseignants qui doivent souvent subir la mobilité pour aller enseigner à parfois plus d'une heure de chez eux. Et c'est des personnes qui ne sont pas titulaires qui, eux, ont les postes... qu'aimeraient avoir les enseignants. Enfin bon, je m'embrouille un petit peu, mais...
C'est-à-dire qu'à un moment donné, au lieu de se dire on a besoin de recréer une dynamique positive pour aussi recréer une dynamique d'envie de personnes de devenir enseignants, au lieu de créer les conditions de cette dynamique-là, on se dit, pour faire face à la pénurie d'enseignants, on va embaucher des contractuels, et on va embaucher des contractuels avec des exigences de diplôme inférieures à l'exigence de diplôme que vous avez pour passer le concours d'enseignant. Donc ça, c'est vrai que c'est des sujets qui sont étroitement liés. La perte de pouvoir d'achat des enseignants, c'est aussi une contrainte réelle sur le quotidien d'enseignants qui doivent s'éloigner de plus en plus. Des lieux les anciennes.
Et alors, d'un point de vue plus général sur les classes figées, vous parlez de perte de sens du travail, c'est ce que vous avez dit un peu pour les enseignants, une dévalorisation. Vous écrivez même qu'ils sont déconsidérés dans leur humanité, enfin je dis leur, mais ça peut être notre humanité. Donc ça, c'est ce qui aussi va dans l'empêchement, là, cette perte de sens.
Globalement, en France aujourd'hui, on a un travail qui est plutôt maltraité. Dans les services publics, c'est ce que je dis, dans l'éducation nationale, et dans l'éducation nationale, on pourrait aussi citer les conditions matérielles de travail, l'état de délabrement des écoles à Marseille. C'est pas des conditions dignes de travail pour les enseignants, l'état des prisons françaises, c'est pas des conditions dignes de travail ni pour les détenus, mais ni pour les personnels de l'administration pénitentiaire. On a des conditions de travail qui sont dégradées parce qu'on a des poids qui sont trop décalés entre les cœurs de métier et les charges administratives. Donc dans les services publics, on a des conditions de travail qui sont dégradées. Mais le problème de conditions de travail qui se dégradent en France, il est plus large, c'est-à-dire qu'on a un pays qui aujourd'hui, en comparaison internationale, se caractérise par une suraccidentologie et une surmortalité au travail. Et ça, c'est des sujets que je mets sur la table, parce que c'est des sujets qui méritent des réponses en termes d'action publique très concrètes et très immédiates. C'est pas normal qu'en France, le taux d'accident du travail soit plus élevé qu'en moyenne européenne. C'est pas normal qu'en France, la mortalité au travail soit plus élevée que dans d'autres pays de l'Union européenne. On a paradoxalement en France une culture du surprésentéisme qui est très marquée, qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays, notamment dans les pays du Nord, où il faudrait montrer une forme d'engagement au travail par le présentéisme. Ça se retrouve dans le télétravail, hein, avec des mécanismes de surveillance de la présence des personnes derrière leur écran, et même un certain nombre de logiciels qui se développent et qui devraient, j'espère, être régulés à assez court terme pour voir la activité sur les écrans derrière les écrans des personnes, le rythme d'écriture des mails, des captures d'écran pour voir si les personnes quand elles télétravaillent sont bien devant leur écran ou pas. Donc le problème du surprésentéisme attendu au travail en France, il n'est pas lié qu'à la présence dans les bureaux, hein, il se retrouve également dans les nouvelles formes de travail. On a un discours en France donc très axé sur le surprésentéisme, sur le fait qu'il faudrait un engagement très fort au travail. Vous avez un discours politique qui reprend aussi vraiment ça de manière, pour moi, très malsaine. C'est-à-dire que quand vous avez des responsables politiques qui se mettent en scène comme ne dormant que 4 heures par nuit... J'ai travaillé avec beaucoup de responsables politiques. Hein. En réalité, c'est pas vrai. On est sur la mise en scène de soi. Hein. Je veux dire, c'est des gens qui travaillent beaucoup. Hein, mais la mise en scène de... J'ai repris c'était très très drôle, hein. J'ai repris une interview d'Olivier Dussopt qui disait « Moi je travaille 4 heures par nuit, à 4 heures du matin, je me lève, je fais mes pompes, mes abdos, ensuite je mange mon steak protéiné le matin. » C'est vraiment une mise en scène de soi, mais c'est une mise en scène de soi qui dit beaucoup de la manière dont on a l'impression qu'il faut surjouer une surcapacité, une surforce qui ne correspond pas à la réalité. Et qu'on retrouve pas, absolument pas dans d'autres pays. Quoi. La mise en scène de soi des responsables politiques français, c'est un peu comme s'ils avaient lu... la bande dessinée, qu'ils avaient vu le film Quai d'Orsay, qui s'était dit, c'est vachement bien, je vais essayer de paraître encore pire que ça. C'est quand même une question. Moi, quand je lis qu'un président de la République ou un autre, un ministre, envoie des messages sur Telegram, vous savez, l'application cryptée, à 2h du matin, soit j'appelle ça du harcèlement professionnel, soit j'appelle ça une incapacité à gérer correctement son travail.
Un problème d'efficacité.
Un vrai problème d'efficacité, parce qu'en fait, si vous avez des cas quand vous travaillez au ministère de l'Intérieur, où vous envoyez des messages à 2h du matin parce que vous gérez des urgences vitales, sinon vous avez un problème d'efficacité quand vous devez parler à votre collaborateur à 2h du matin. Quoi. Vous pouvez programmer le message à 7h, aller à 6h30 quand vous faites une radio. Quand j'avais des patrons qui allaient faire des radios à 7h, je savais que je devais être réveillé à 6h30 pour leur répondre. Mais c'était justifié par le fait qu'ils avaient besoin d'une réponse pour une demi-heure après. Quoi. Sinon, en termes d'organisation, normalement, on peut attendre 7-8h et vous faites des journées de 14h. Et ça marche dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, allons en Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, quand elle était enceinte, alors qu'elle était à la tête de la Nouvelle-Zélande, elle a dit « Mon pays est le premier pays à avoir fait des conquêtes en termes de droits des femmes ». Donc si je suis enceinte, mon congé maternité, je vais le prendre. Parce que si je ne prends pas mon congé maternité, ça veut dire que les droits des femmes, moi-même, en fait, je les balaye d'un revers de la main. Et le pays a continué à tourner. Et elle a été reconnue à la fois nationalement et internationalement comme une des meilleures dirigeantes de ces dernières années. En France, ce qu'il faut absolument montrer si vous êtes un ministre, une ministre qui attend un enfant, c'est que vous êtes au Conseil des ministres 2 heures après, allez, 2 jours après avoir accouché. C'est problématique pour les droits des femmes, hein. C'est problématique pour ce qu'on dit aussi du comportement normal et de l'implication normale attendue dans le travail de tout ça à chacun.
Oui, parce qu'on va retrouver ça dans l'entreprise, hein, ce qu'on
on
retrouve
va retrouver
au
ça
niveau
dans l'entreprise.
Politique.
En Espagne, Pedro Sanchez... C'était le premier ministre espagnol à écrire un livre quand il arrive au pouvoir. Donc Pedro Sanchez, il arrive et il écrit un livre pour raconter ses premiers mois de pouvoir. Et la mise en scène de soi qu'il fait est totalement différente. C'est-à-dire qu'il dit « Mon premier acte officiel en tant que premier ministre, c'est quand j'ai décidé d'accueillir dans les ports espagnols le bateau Aquarius. Mais avant, il y a eu 2 autres actes officiels que j'ai fait en tant que premier ministre. C'est d'abord, j'ai visité la résidence officielle des premiers ministres à la Moncloa, à Madrid. » Et avec ma femme, on a décidé de changer le sommet du lit. C'est une autre mise en scène de soi. Mais c'est une mise en scène de soi d'abord sur les considérations de tout à chacun. Je change de travail, je déménage. Même si je prends un meublé, la chambre, je m'en occupe quand même. Et il dit, la deuxième chose que j'ai dû faire, c'est négocier avec mes enfants, parce que mes filles, elles n'avaient pas trop envie de déménager dans la résidence officielle. C'est vraiment le truc de tout à chacun. Je change de travail, je déménage, je dois... convaincre mes gamins qu'ils ne vont pas perdre leur ami, etc., pour faire venir, quoi. En France, on a une autre mise en scène de soi. Et ça se traduit aussi, d'une certaine manière, ensuite, au sein de l'entreprise, par un rapport au travail, qui est un rapport qui est moins sain que dans les autres pays. Au lieu de demander l'efficacité du travail, on demande la présence à tout prix. Et au lieu de donner de l'autonomie et de regarder les objectifs, on est sur du surcontrôle. C'est très intéressant, les dernières enquêtes qu'a fait la DARES, la Direction des études du ministère du Travail, sur l'autonomie, pour voir dans quel sens on évolue. Normalement, on se dit qu'avec les nouveaux outils, notamment digitaux, on devrait avoir une plus grande autonomie, qu'on devrait être jugé sur les résultats obtenus. Non, si vous regardez à la fois les professions intermédiaires et à la fois les cadres sur l'évolution sur 10 ans en France, ils sont moins autonomes aujourd'hui qu'ils étaient il y a 10 ans. Et ça, ça nourrit le sentiment, enfin, pas le sentiment, ça nourrit la réalité d'un vécu d'empêchement dans le travail.
Parce qu'on a mis des process supplémentaires à l'utilisation de ces outils, parce qu'il y a toujours, je pense, dans l'entreprise, des gens ou des managers intermédiaires qui compliquent et qui complexifient le quotidien d'outils, justement, dont l'objectif serait de rendre les salariés plus autonomes et plus efficaces. Il y a moins de contrôle.
Oui, c'est-à-dire qu'au lieu de se dire on a les moyens de donner plus d'autonomie et d'aller vers l'efficacité en laissant finalement l'autonomie et en attendant juste l'atteinte des résultats, on a mis en place des outils pour renforcer les processus de contrôle sur les outils qui devaient normalement laisser plus de liberté.
Donc ce télétravail, hein, vous le dites, ça sert d'alibi à la dégradation des conditions de travail. Ça s'est largement répandu après les confinements. Et si je reviens sur cette période de confinement, ça aussi, ça a fait ressortir, vous parliez de 2008 là, pour la fin des classes moyennes, là, la différence entre la minorité resserrée qui, elle, se permettait de passer outre les règles de confinement que tout un chacun essayait de respecter. Ça, c'est aussi un tournant, l'époque Covid.
En fait, ce qui est intéressant, c'est que donc, je me suis dit, la grille de lecture des classes moyennes, c'est une grille de lecture qui est plus efficiente de la société française actuelle. Et la grille de lecture qui me semble efficiente, c'est cette situation d'empêchement de l'immense majorité des Français, dans leur rapport au travail, à la mobilité, à leur capacité à se construire un destin, à leur capacité à se construire un avenir, à leur capacité à construire un avenir pour leur enfant. Et là, l'immense majorité des Français se retrouve face à cette problématique d'empêchement. Alors bien sûr, quand je parle de l'immense majorité des Français, je ne parle pas d'une population qui est une population homogène. Quand vous avez aujourd'hui 15% des Français qui sont en situation de pauvreté, quand vous avez aujourd'hui 15% des Français qui se disent en situation de privation matérielle, on n'est pas dans la même situation économique couple d'enseignants, même s'il a perdu 25% de son pouvoir d'achat en 20 ans. Donc il n'y a pas d'homogénéité économique. Par contre, il y a une même problématique d'un vécu qui est partagé et qui est un vécu d'empêchement. Et pour moi, ça, ce vécu partagé, ça concerne à peu près 90% des Français. Parce que ceux qui n'ont pas à subir finalement cette forme de récurrence des crises sociales, économique, sanitaire, écologique, qui crée aussi la situation d'empêchement, j'arrive à les mesurer par rapport à la situation du confinement en regardant le nombre des Français extrêmement réduit qui, au moment où on a demandé à tout un chacun de se confiner, c'est-à-dire de respecter individuellement pour protéger l'ensemble de la collectivité, la contrainte sanitaire de ne pas sortir de chez soi. Il y a 10% des Français qui ont entendu confinement et qui, dans leur tête et dans le concret de ce qu'ils ont fait, ont transformé ça en escapade en résidence secondaire. Vous avez 10% des Français qui ont fait ça. Et je me suis dit, c'est un outil intéressant pour fixer la frontière entre cette France qui fait face à des problématiques d'empêchement et cette partie très resserrée de la France qui se considère comme totalement dégagée des contraintes et des obligations communes. Et ce 90%, 10%, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on le retrouve quand vous interrogez les Français et que vous leur demandez s'ils se sentent personnellement concernés par un risque de pauvreté à horizon 3 ans. Vous avez 9 Français sur 10 qui disent oui. C'est un chiffre que vous retrouvez qu'en France. Hein. En Italie, vous avez 5 Italiens sur 10. Au Royaume-Uni, vous avez 6 Anglais sur 10. À peu près pareil pour les Allemands. Mais en France, vous avez 9 Français sur 10 qui pensent que personnellement, à horizon 3 ans, ils peuvent faire face à un risque d'être atteints par la pauvreté. Et je pense qu'en termes de construction d'un projet politique, d'un projet de société, il faut sortir des anciennes oppositions, qui sont des oppositions un peu factices, classe moyenne, pas classe moyenne, urbains, ruraux, périurbains, pour essayer d'apporter des réponses à cette problématique de l'empêchement, qui est une problématique beaucoup plus large et qui est une problématique dans laquelle on peut englober, pour moi, l'immense majorité des Français.
Parce que ce phénomène d'un pouvoir d'achat sur lequel vous pouvez peut-être revenir touche aussi bien les urbains que les ruraux, que les personnes qui ont un CDI, que ceux qui sont en précarité. C'est ça aussi ce qui est nouveau.
Oui, ce qui est assez nouveau, c'est pour ça que la crise financière de 2008 est un marqueur temporel assez intéressant. Ce qui est assez nouveau, c'est le fait que les Français, depuis 2008, ont eu à vivre une série de crises un peu récurrentes. La crise financière, la crise économique derrière, la crise sanitaire, les impacts des crises géopolitiques, invasion de l'Ukraine par la Russie, impact direct sur l'augmentation des prix de l'énergie, du pouvoir d'achat, des crises écologiques qui font craindre des impacts économiques et financiers à nouveau extrêmement forts. Donc les Français, depuis 2008, vivent une succession de crises. Et une succession de crises qui se traduit par une forme de dégradation permanente de leur situation. Dégradation permanente face à laquelle on leur demande d'abord d'être en permanence résilient, sans qu'on définisse bien ce que veut dire le fait d'être résilient. Et dégradation permanente qui crée une forme de situation dans laquelle il y a une forme d'impossibilité de se projeter positivement vers un avenir qui sera un avenir différent qu'un avenir de succession de crises. Ce qui fait que, d'abord, les Français ont choisi, après la crise sanitaire, et ça, c'est un choix qui a été fait par les Français et qu'on ne retrouve pas ailleurs. Pendant la crise sanitaire, du fait du confinement, vous avez eu partout une augmentation de la part de l'épargne par rapport à la part de la consommation. Parce que les gens pouvaient moins consommer du fait du confinement. Partout ailleurs, ensuite, ça s'est rééquilibré. Les Français ont fait un choix différent. Ils ont gardé un niveau d'épargne relativement élevé, justement par peur de l'avenir. Mais les Français ont gardé aussi ce niveau d'épargne relativement élevé du fait qu'aujourd'hui, ils subissent tellement de contraintes dans leur capacité de consommer et de dépenser qu'ils se sentent en insécurité économique d'une certaine manière quasi permanente. Je parlais tout à l'heure de la part des dépenses contraintes. En France, la part des dépenses contraintes, c'est 30%. C'est-à-dire que vous avez 30% de vos dépenses qui sont prédéterminés au début de chaque mois, sur lesquels vous avez très très peu de leviers pour jouer. Votre loyer, votre mutuelle, les abonnements nécessaires, téléphone portable, internet, un service de streaming. Vraiment, ces dépenses sur lesquelles vous pouvez absolument pas jouer. Ces dépenses contraintes, elles sont à 30%. Il y a 40 ans, la part des dépenses contraintes, c'était 14%. C'est-à-dire que vous avez une part de vos dépenses sur lesquelles vous n'avez plus la main à court terme qui est extrêmement, extrêmement élevée. Ce qui fait que on parle souvent du pouvoir d'achat, il faut augmenter le pouvoir d'achat, etc. Mais la problématique des Français aujourd'hui, c'est presque une problématique d'un pouvoir d'achat. C'est-à-dire c'est la problématique de qu'est-ce que je ne peux plus acheter, pas qu'est-ce que je peux acheter de plus. Le problème, c'est un problème de reste à vivre, mais au sens où qu'est-ce que je retire, pas qu'est-ce que je peux ajouter de positif par rapport à ce à quoi je peux accéder. Et le discours politique le plus souvent qui est posé là-dessus, sur le problème du pouvoir d'achat, c'est un discours qui est extrêmement moralisateur. C'est-à-dire, c'est déjà un discours qui va poser un certain nombre de jugements sur ce qui serait bien d'acheter ou ce qui serait bien de ne pas acheter. Ça pose véritablement un problème. Là, je recite le livre de Jean-Paul Delahaye. Jean-Paul Delahaye raconte que sa mère, femme de ménage, l'élevait seule avec ses frères et sœurs et qu'à un moment donné, il y a une fin de mois où il restait un peu plus d'argent. Donc, elle a décidé d'acheter un appareil pour écouter de la musique. Et il dit, qui aurait le droit de juger le fait que cette dépense était une dépense qui était une dépense inutile ? C'est-à-dire, est-ce que le fait d'écouter de la musique, qui a le droit de porter un jugement moral là-dessus ? De la même manière qu'on peut dire aujourd'hui, qui a le droit de porter un jugement moral sur le fait que, même pour les budgets les plus contraints, je fais le choix de pouvoir accéder à un service de streaming, parce que si j'ai pas un abonnement Netflix pour mes enfants, c'est aussi être en totale déconnexion avec la culture de 90% des personnes, non pas 90, 60% des personnes avec lesquelles sont en interaction. On considère aujourd'hui que vous avez 60% des Français qui ont un accès à un code, à un abonnement ou à des codes pour accéder à Netflix. C'est-à-dire que par rapport à la problématique du pouvoir et de l'impouvoir d'achat, les réponses politiques sont souvent soit en termes de jugement moral sur ce que seraient les bonnes dépenses et ce que ne seraient pas les bonnes dépenses. Pour le dire de manière caricaturale, l'alimentation biologique serait une bonne dépense. Vouloir acheter des Nike alors qu'on peut acheter des chaussures de sport sans marque serait une mauvaise dépense. Et on est très rapidement sur des solutions qui se contentent non pas de redonner du pouvoir, qui sont pas des solutions qui visent à redonner du pouvoir d'achat, mais plutôt des solutions qui visent à faire l'éducation budgétaire des Français sur les dépenses qui pourraient, dont ils pourraient se passer, dont ils pourraient se priver. Pour moi, ça c'est un véritable sujet sur la manière dont on considère cette question clé de l'accès à la consommation et du pouvoir d'achat qu'on peut redonner ou qu'on ne redonne pas aux Français.
Et où tout désir devient déraisonnable. C'est pour ça que je parlais de France désenchantée en introduction du propos.
Oui, c'est-à-dire, oui, à la fois où tout désir devient déraisonnable, ou en tout cas où il n'y a même plus de croyance réelle sur la capacité de se projeter vers un avenir désirable. Il y a plutôt une forme d'intégration du fait qu'on irait vers un avenir qui serait un avenir de facto assez dégradé. C'est assez intéressant la réponse, y compris dans le vocabulaire qui a été mis en place face à l'augmentation des prix de l'énergie. On a mis en place en France une politique des boucliers qui a eu un effet, enfin qui était nécessaire et qui a eu un effet efficace à court terme, c'est-à-dire que c'est une politique qui a permis d'empêcher une augmentation trop rapide des prix de l'énergie pour les Français. La problématique de la politique des boucliers, elle est double. D'abord, c'est que quand vous avez les boucliers, ça a un impact très fort. Et ça a eu un impact très fort, à la fois sur le budget des ménages, mais aussi, on l'a vu, en termes de liquidation et de faillite d'entreprise, c'est-à-dire qu'une fois que le bouclier était retiré, vous n'êtes pas sur une politique qui crée quelque chose à long terme, vous êtes sur une politique qui vous protège à court terme. Et la deuxième problématique de la politique des boucliers, c'est l'image que je reprends d'Astérix le Gaulois. Vous voyez les légionnaires romains quand ils font la tortue. Quand ils font la tortue avec les boucliers sur les côtés, comme ça. Moi, j'avais un jouet, comme ça, c'est pour ça que je le reprends. J'avais mes petits légionnaires romains, comme ça, avec leur bouclier sur le côté. J'en avais juste un au-dessus qui soulevait son bouclier comme ça pour voir ce qui se passe. Les Romains, tout d'un coup, quand ils sont attaqués par les Gaulois, bon, c'est marqué, du coup, dans la bande dessinée. Et tout d'un coup, on est passé de la tortue à la politique du lièvre, c'est-à-dire qu'on est parti sur du sauve-qui-peut en arrière. Le sujet, en fait, de la politique des boucliers, c'est que c'est une politique qui, d'une certaine manière, protège par rapport à un avenir à très court terme, tout en bouchant l'horizon à très court terme, parce qu'on ne n'essaie pas de se projeter par rapport à un avenir à plus moyen, à plus long terme. Et en étant sur de la gestion du très court terme, on empêche aussi de se projeter vers un avenir plus positif à long terme, parce qu'on est juste sur de la gestion des injonctions à court terme. Et pendant la... Pardon, je suis un tout petit peu longue, mais pendant la première crise pétrolière, le slogan publicitaire, mais qui a été repris, c'est le fameux slogan « En France, on n'a pas de pétrole, on a des idées ». Là, les slogans publicitaires sont assez intéressants des campagnes gouvernementales autour de la sobriété énergétique. C'est « moins, plus tard » et je ne l'ai plus en tête exactement, mais en fait, on demande aux Français d'être dans le « moins, moins reculé ». C'est-à-dire qu'on n'est plus sur une dynamique positive, on est sur une dynamique toujours présentée comme quelque chose de négatif, toujours présentée comme quelque chose... où il faudrait enlever par rapport à la situation actuelle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le mot sobriété, qui pourrait être un mot extrêmement positif dans la construction d'un projet porté collectivement avec les Français, est ressenti comme quelque chose de négatif par la société française, parce que c'est perçu comme le résultat d'une injonction extérieure d'acceptation d'une dégradation continue de la situation.
Oui, pardon.
C'était pas très clair que la phrase était finie.
Du coup, bah, c'est vrai que le temps passe vite. Il y a quand même un dernier volet qu'on peut peut-être voir, c'est sur le plan politique, puisqu'on pourrait se dire, bon, il y a quand même une parole citoyenne, il y a eu la convention citoyenne sur le climat. Et là aussi, il y a un sentiment de ne pas avoir été clairement entendu ou écouté.
Politiquement, on a un problème majeur de désenchantement démocratique de la société française. On le voit avec l'augmentation de l'abstention à absolument tous les tours des élections. Et tous les tours de toutes les élections, on a des augmentations des taux d'abstention très nettes, y compris pour l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'on a des citoyens qui se retirent un peu de la démocratie représentative. Alors, ils se retirent de la démocratie représentative de manière intermittente. C'est-à-dire qu'en fait, on observe relativement peu de personnes qui ne vont jamais voter. On a plutôt des personnes qui vont voter parfois, mais pas toutes les élections, ce qui fait qu'on se maintient à des niveaux d'abstention très hauts, à des niveaux d'abstention qui sont des niveaux d'abstention croissants. Et ce désenchantement démocratique, il a des causes très concrètes, hein, dont une des causes est le fait que sur les dernières années, mais je remonte assez loin dans le temps, presque à partir de la fin des années 80, on a eu une tendance des politiques français à lire Hannah Arendt, mais uniquement à moitié. Je m'explique, Hannah Arendt définit le travail politique comme la capacité à faire des promesses. C'est dans la crise de la culture. Et les politiques français s'arrêtent à peu près à cette phrase, quoi. C'est-à-dire, c'est la capacité à faire des promesses. Sauf que Hannah Arendt, la phrase en entier dans la crise de la culture, c'est vraiment une phrase. Enfin, la fin de la phrase est dans la même phrase. Hein. C'est pas qu'ils n'ont pas tourné la page. Et le travail politique se définit dans un cadre qui est et a toujours été la capacité à faire des promesses et à les tenir. Si vous ne tenez pas les promesses que vous faites politiquement, en cherchant toutes les excuses du monde. Alors ça peut être la faute à l'Europe, la faute à la crise sanitaire, la faute à pas de chance, la faute à... on m'avait pas prévenu de l'état budgétaire du pays.
Aux enseignants.
La faute aux enseignants, parfois. Si vous ne tenez pas les promesses, vous mettez à mal le pacte fondamental, qui est le pacte de la souveraineté nationale et qui est le fait que les personnes vont voter. C'est-à-dire que les personnes vont voter pour faire un choix politique, parce qu'on leur a fait des promesses, qu'ils attendent que les engagements politiques soient tenus, et ensuite, au temps de la nouvelle élection, on se reprononce par rapport à ça. Fondamentalement, Robert Badinter, son discours, au moment où il s'avance devant l'Assemblée nationale, pour demander le vote de la loi pour l'abolition de la peine de mort, il dit aux députés, vous avez pris un engagement vis-à-vis de la nation en vous faisant élire, c'est l'engagement que vous allez abolir la peine de mort. Et cet engagement, ce pacte que vous avez pris, c'est le moment de le tenir. C'est comme ça qu'il structure, c'est autour de cette idée-là qu'il structure son discours. Au sens où il y a eu un engagement fondamental, vous vous êtes fait élire là-dessus, et maintenant c'est le moment de tenir votre engagement. On a perdu ça dans la manière de gouverner. Et je le dis, c'est pour ça que je remonte à la fin des années 80. C'est-à-dire que je le dis de manière apolitique. C'est-à-dire que les responsables politiques en France ont tendance à considérer qu'il y a assez d'excuses qui peuvent justifier le fait de ne pas avoir tenu ces engagements. Ça a une conséquence très concrète, c'est le fait qu'on a un affaiblissement de la démocratie représentative. Les mécanismes de démocratie délibérative et participative, pour moi, ne doivent pas venir remplacer une démocratie représentative affaiblie, mais déjà l'enrichir. C'est-à-dire qu'on a besoin de remettre du souffle à la démocratie représentative et se nourrir de ces nouveaux mécanismes de démocratie délibérative et participative. Le problème, c'est qu'on est en train de reproduire exactement la même chose. C'est-à-dire que ce qui a fragilisé la démocratie représentative, on le reproduit sur les mécanismes de démocratie délibérative. Je prends un exemple, la Convention citoyenne sur le climat. La Convention citoyenne sur le climat, quand elle a été mise en place, c'est dans un cadre où il a été dit aux conventionnaires, vous allez vous prononcer et on reprendra l'entièreté de vos propositions et ça sera la politique climatique de la France. Moi, je ne me prononce pas sur le fait qu'on ait présenté les choses comme ça. Je ne me prononce pas sur le fait que c'était ou pas un bon choix de considérer qu'une convention citoyenne puisse finalement imposer ses décisions au Parlement, enfin, qu'institutionnellement, c'était sans doute compliqué, mais ça a été présenté comme ça. Donc, vous prenez un engagement. Vous prenez un engagement par rapport aux conventionnaires et vous prenez un engagement par rapport au pays en disant « on met en place un nouveau modèle de démocratie, une nouvelle structure de démocratie délibérative ». Elle va se prononcer dans telle ou telle condition, elle va faire des propositions, et les propositions, on les reprendra telles quelles. La Convention a fait ses propositions. Derrière, il y a eu l'apparition des jokers. Donc, ok, bon, 3 jokers sur 153 propositions, pourquoi pas. Et ensuite, on a commencé à dire, ah non, mais finalement, tout ce que vous avez proposé, ça va passer au tamis, au filtre du Parlement, etc. Donc, peut-être qu'in fine, il y aura un ou deux points que vous avez soulevés qu'on reprendra. C'est-à-dire que l'engagement initial autour de cette nouvelle forme démocratique n'a pas été tenu. Et si on ne remet pas du lien de confiance, et le lien de confiance doit être recréé par les responsables politiques, si on ne remet pas du lien de confiance envers les citoyens, alors on va continuer à affaiblir de plus en plus la démocratie française. Je vous raconte juste une anecdote. J'ai été secrétaire général de la campagne présidentielle de Benoît Hamon. Et juste pour vous remettre en tête les choses, le choix de Benoît Hamon comme candidat de la gauche socialiste en 2017 s'est fait à l'issue d'une primaire. Vous aviez une primaire avec plusieurs candidats et les candidats s'engageaient au moment où ils se présentaient à soutenir le candidat qui sortirait des urnes. Benoît Hamon est sorti des urnes et certains candidats, François de Rugy, pour citer le moins connu, Manuel Valls, pour citer le plus connu, ont considéré que leur engagement ne valait rien et que le papier qu'ils avaient signé, c'est compliqué quand même de prendre un engagement écrit, ne valait rien, qu'ils ne soutiendraient pas Benoît Hamon. Et que pour bien montrer qu'ils ne le soutiendraient pas, parce que bon, vous avez un non-soutien passif, ils allaient soutenir un autre candidat. Quand on se déplaçait avec le candidat Benoît Hamon, un peu partout en France, et notamment quand on se déplaçait avec le candidat Benoît Hamon dans les quartiers pour aller à la rencontre des jeunes. C'était extrêmement intéressant ce qu'il nous disait, parce qu'on se dit, cette génération qui s'engage différemment, mais qui est très loin de la politique, etc. En réalité, ce qu'il nous disait, il lui disait directement, « Ah, monsieur, vous êtes sympa et tout, hein, mais moi, je ne peux pas voter pour vous, parce que vous, votre parti, c'est un parti des sans-paroles. » Et il nous disait ça, « Vous n'avez pas de parole de votre parti. » Vous n'avez pas de parole, donc on ne votera pas pour vous. Et donc, ils ne votaient pas pour nous, ils n'allaient pas voter. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement fort. Et ce sens-là du respect de l'engagement politique, le retrouver, pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental pour la vitalité de la démocratie dans les années à venir.
Et quelque chose que vous n'évoquez pas dans votre livre, c'est le monde associatif. Est-ce que là, il n'y a pas une réponse, justement, par rapport à ce désengagement par rapport aux politiques ?
Le,
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une perspective de retrouver du sens dans cet engagement-là pour des gens qui peuvent s'exprimer nulle part ailleurs ?
Les Français restent des citoyens qui sont des citoyens très engagés. Ils sont des citoyens très engagés dans différents secteurs, à différents niveaux, dans des engagements locaux, parfois dans des engagements nationaux, dans des engagements militants, dans des engagements parfois dans des projets économiques. Je le dis ici parce qu'on est au sein d'une SCOP, dans des engagements associatifs. On n'est pas une société qui a perdu le sens du commun. On est une démocratie qui est en train de laisser s'effriter le lien de confiance entre les citoyens et les représentants, et qui est en train de laisser s'abîmer le mécanisme fondamental de la démocratie représentative, parce qu'on a perdu cette notion de confiance. Et c'est terrible au moment des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes se sont mis à demander, pour une partie d'entre eux, le mandat impératif. On sait pourquoi le mandat impératif, depuis le choix qu'on a fait au moment de la Révolution française, on sait pourquoi le mandat impératif n'est pas une solution qui peut fonctionner. Mais les Gilets jaunes ont demandé le mandat impératif pour une partie d'entre eux, en disant, en réalité, on veut de la révocation immédiate, et le fait que vous soyez élu sur la base d'un mandat impératif, parce qu'on ne vous fait plus confiance en tant que représentant de l'intérêt général, du fait du délitement de ce lien de confiance un peu généralisé. Et pour moi, il n'y a pas d'opposition entre les engagements associatifs, etc., et la démocratie représentative. D'ailleurs, vous ne parliez pas d'opposition. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut garder, il faut rendre possible encore plus extrêmement fort la dynamique associative et d'engagement que les Français peuvent avoir sur des projets, pour des causes, etc. Mais il faut en même temps, et ça ne viendra pas affaiblir les premiers engagements, réparer ces démocraties représentatives, parce que c'est fondamental. C'est fondamental pour qu'on reste un État démocratique.
Alors, un dernier mot pour vous dire que ce livre, il est très accessible, il est très facile à lire, même si on brasse beaucoup de... Ben voilà, c'est un constat, hein, c'est ce que vous disiez. Et il est parsemé quand même d'extraits de littérature, d'écrivains, parce qu'on est quand même dans une librairie. Donc vous citez beaucoup Annie Ernaux, je ne sais pas si vous voulez nous en dire un mot. Vous citez Lola Lafont, vous citez même Stendhal et Fabrice Del Dongo, hein, et même Françoise Giraud, la prix Goncourt de l'année dernière, mais sur Lola Lafont, sur Annie Ernaux, même ça dit beaucoup sur l'ascension sociale, que ce soit la première femme française prix Nobel de littérature. Donc je ne sais pas si vous voulez en dire un mot.
Non, sur Annie Ernaux, il y a deux choses, c'est-à-dire que souvent on dit oui. Il y a un décalage très fort entre ce que disent ressentir les Français et puis la réalité qu'on voit des chiffres économiques, technocratiques, etc. Ce que décrit Annie Ernaux, c'est pas du ressenti, c'est une forme de réalité, c'est-à-dire qu'elle met des mots sur des vécus de façon extrêmement juste. Et au moment de son discours de réception du prix Nobel, elle a cité des vers de Rimbaud. Quand Rimbaud dit « Je suis de race inférieure de toute éternité ». C'est un peu ce que j'ai essayé de retranscrire avec les mots « Les Français n'ont plus d'avenir, aujourd'hui ils ont des destins ». C'est-à-dire qu'on est en train de perdre cette possibilité d'ascension et cette possibilité de mobilité. C'est très récemment qu'on a vu apparaître dans le vocabulaire français le mot transfuge de classe. Le mot transfuge de classe, vous le retrouvez absolument pas, ni en anglais, ni en espagnol, dans très peu d'autres pays. Parce qu'en fait, le mot transfuge de classe, c'est ce que dit le mot exception consolante. C'est-à-dire que si vous avez des transfuges de classe, c'est que vous n'avez plus uniquement que quelques individus qui arrivent à passer d'un monde fermé à un autre monde fermé. Et ce qui est beau dans ce que dit Annie Ernaux, c'est qu'elle écrit aussi la difficulté d'évoluer dans des univers qui, au départ, ne se parlaient pas, mais en même temps, elle dit aussi la volonté de sa mère de faire en sorte que ensuite elle puisse évoluer dans un autre univers. Je cite aussi beaucoup parce que pour moi c'est un livre qui est extrêmement parlant, Le Quai d'Ouistreham de Florence Aubenas. Il est juste ici, il est vachement bien, Le Quai d'Ouistreham de Florence Aubenas. Florence Aubenas a pendant quelques mois travaillé comme femme de ménage. Et elle l'a fait jusqu'au moment où elle trouve, où elle a trouvé, on lui a proposé un CDI. À partir de ce moment-là, elle a dit « je ne peux pas accepter parce que je vais prendre l'emploi durable de quelqu'un, donc j'arrête ». Et ce qu'elle retranscrit, c'est le vécu de...
sur les ferries, sur les ferries.
Elle a travaillé comme femme de ménage sur les ferries, puis un peu partout dans les bureaux autour de Ouistreham. Et ce qu'elle dit, c'est le vécu des difficultés de mobilité et de l'isolement par la mobilité aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous êtes femme de ménage et qu'on vous donne uniquement des contrats de 2 heures, 2 heures sur les ferries, 2 heures à l'autre bout de la ville, 2 heures dans les quartiers, si vous n'avez pas de voiture, vous en sortez pas. Si vous avez une voiture, faut que vous la partagez avec les collègues, parce que sinon vous vous en sortez pas, ça vous coûte plus cher. Et ce qu'elle dit. Au départ, c'est qu'elle commence à parler avec ses collègues. Elle n'aura pas dit qu'elle était journaliste, mais elle ignore la réalité des vécus. Elle dit, mais vous vous rendez pas compte, en fait. On est payé 10 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures, mais ça nous prend 20 heures dans la journée. Ça nous prend 20 heures parce qu'il nous faut nous déplacer, il faut être là avant, dans le ferry, il faut être là une demi-heure avant que le ferry part. Et puis finalement, vous n'avez pas fini parce que vous n'êtes pas payé à l'heure. Vous êtes payé à la tâche accomplie, donc elle travaille aussi dans des campings. Tout d'un coup, celui qui vous supervise, il considère que les couverts ils sont pas bien nettoyés, donc on vous avait dit 1 heure, vous mettez 1 heure et demie pour faire, et donc en fait, en réalité, l'empreinte de votre métier sur votre vie est de 20 heures, vous êtes payé 10 heures. Ça a été mesuré sur tous les métiers, des services à la propreté, tous les métiers en fait où on impose aux personnes des vies en kit, avec des bouts de contrat un peu partout. L'empreinte concrète de leur travail sur leur vie, il est double du temps de travail pour lequel les personnes sont payées. Et je suis aussi repartie de ces textes-là, parce qu'une fois que j'ai dit qu'économiquement, on a pourri, c'était le double, voilà, relire Florence Aubenas, qui dit ce que ça veut dire concrètement dans un vécu, je trouvais que c'était aussi plus parlant quand Florence Aubenas dit « Je parlais avec ma collègue Marie-Lou un soir ». Donc elle m'a déposé. Non, je crois que c'est Florence Aubenas qui dépose Marie-Lou au pied de chez elle. Et Marie-Lou, qui est plus jeune qu'elle, commence à lui parler un peu de son avenir et de ce qu'elle pourrait avoir comme rêve. Une formation, pouvoir se marier avec son compagnon, peut-être avoir un chien, mais un chien ça coûte cher. Peut-être avoir une maison. Elle dit, et au fur et à mesure qu'elle me raconte ses rêves, sa voix s'éteint, comme si elle avait même pas le droit de formuler ses rêves qui devenaient inaccessibles pour elle. Moi, théoriquement, j'appelle ça la France empêchée. C'est-à-dire la France empêchée de se construire un avenir positif. Mais c'est vrai que dans les mots et dans la bouche de Marie-Lou, ça dit plus de choses. C'est pour ça que je vais chercher ça. C'est pour ça que je vais chercher Lola Lafont. C'est pour ça aussi que parfois, je vais chercher des publicités. Pardon, je suis un peu longue, mais juste je prends un exemple. Vous avez des publicités pour une marque de supermarché qui sont vraiment intéressantes aujourd'hui. C'est des publicités qui sont faites pour... Après faire sourire, je sais pas si vous les avez vus, c'est toute une série de publicités où vous voyez 2 personnes dans un open space qui regardent une personne de l'autre côté de la vitre et qui dit « Ah mais c'est pas possible, il est en train de manger des cookies avec des pépites de chocolat quoi. » Non mais il se prend pour qui de se la péter en train de manger avec des cookies avec des pépites de chocolat ? C'est plus accessible. Depuis quand j'ai pas de manger de cookies avec des pépites de chocolat ? C'est vraiment n'importe quoi. Et c'est décliné à Ah mais tu te rends compte ce qu'il a osé nous apporter pour le dîner ? Il nous a apporté pour le dîner des fromages blancs. Non mais qui se permet ? Pourquoi il veut afficher son argent là en nous apportant pour le dîner des fromages blancs ? C'est décliné comme ça. Et je trouve que c'est assez parlant pour dire ce que j'essaie de montrer aussi en m'appuyant sur les études économiques, qu'il y a un vrai pouvoir d'un pouvoir d'achat, mais que c'est pas normal que dans une société qui est la 7e puissance économique, on puisse considérer que pour promouvoir des produits à prix plus bas, il faille partir de cette forme de réalité un tout petit peu déformée, parce que c'est la déformation qui fait le comique, mais qu'il faille partir de cette forme de réalité un tout petit peu déformée, que l'accès aux produits alimentaires de base, le biscuit aux pépites de chocolat, ne soit a priori plus accessible au plus grand nombre. Voilà, c'est un peu ça aussi qui m'a nourri dans ce travail, c'est-à-dire qu'à un moment donné, me baser sur les vécus tels qu'ils étaient racontés par les personnes qui font les services publics, par les personnes qui travaillent, par les publicitaires, de certaine manière, c'était enrichir l'approche un peu théorique que j'avais.
Merci beaucoup.
Merci à vous.